Vie, durée et santé. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afrique contre-attaque. Dans l'épisode 17, nous avons introduit le show avec une fable de Ésope. Ésope qui est un poète noir. La petite histoire, c'est que Ésope, les récits qu'il a eu à écrire, un certain Jean de La Fontaine s'en emparera pour pouvoir faire ses fables et les modifier un tout petit peu. Donc Jean de La Fontaine, ses fables ne sont pas sorties des replis de son cerveau, mais beaucoup d'entre elles sont des fables de Ésope. Ésope qui était un poète noir, vous pouvez faire vos petites recherches là-dessus. Ésope était un Africain et donc son patrimoine culturel appartient aux terres africaines. Et cela nous a permis d'introduire la notion de l'impuissance acquise, car en réécoutant cette histoire du moucheron et du lion, ou qu'on appelle aussi le cousin et le lion, ou encore la tipule et le lion, la tipule ou le cousin qui est en fait un petit insecte qui ressemble à un moustique, hein. Cette histoire nous rappelle les mésaventures d'un insecte avec un lion. Et ce qui est intéressant dans cette histoire par rapport à l'impuissance acquise que je veux reprendre ici, donc la petite histoire, on disait: un moucheron s'approcha d'un lion et lui dit: je n'ai pas peur de toi et tu n'es pas plus puissant que moi. Si tu prétends le contraire, montre de quoi tu es capable. Nous voyons ici que le moucheron s'approche du lion et directement il utilise l'une des stratégies de l'impuissance acquise, celle qu'est l'intimidation. C'est-à-dire que lorsqu'un adversaire se rend compte qu'il est face à un plus fort que lui, de toute façon, lorsqu'il y a confrontation, il y a bien et bien toujours, car on dit, il ne faut pas sous-estimer son adversaire, hein, il peut toujours avoir un coup d'avance sur soi. Donc lui gagne déjà la guerre psychologique. Et c'est ce qui fait aussi le fait que les joueurs d'échecs les plus talentueux, lorsqu'ils sont confrontés à l'ordinateur, aux machines, car maintenant les algorithmes sont devenus tellement puissants qu'il est très difficile maintenant que les champions d'échecs puissent gagner contre les machines. Et bien, ce qui fait souvent que les champions d'échecs puissent gagner lorsqu'ils combattent au moins des humains, c'est qu'ils peuvent utiliser des stratégies psychologiques pour pouvoir affaiblir la pensée humaine qui est face à elle. Mais lorsque vous jouez avec une machine, eh bien, il n'y a pas moyen d'intimider. Vous perdez déjà en psychologie, vous perdez déjà en atout. Vous ne devez vous lier qu'à votre logique et non plus à vos émotions. Et ça, c'est très, très, très dangereux, car la notion d'intelligence émotionnelle est extrêmement pratique lorsque l'on veut gagner. On dit souvent, voilà, l'Africain, il est émotionnel, mais nous avons déjà dit ici que l'intelligence émotionnelle, c'est ce que nous devons aussi utiliser pour vaincre. Nous ne devons pas simplement devenir des créatures purement logiques, mais l'émotion que nous avons, l'intelligence émotionnelle, doit être utilisée. Car l'émotion est un messager, au fait. Elle nous informe de la qualité de la nouvelle, du message, de l'action. Et notre réaction se doit maintenant ensuite d'être calme, apaisée. Et on dit « la nuit porte conseil ». Vous savez, on parle de Kemet, qui s'écrit avec K-M-T, dont le hiéroglyphe, le symbole d'une chouette est visible. Eh bien, cette chouette-là nous montre aussi que dans la pensée de l'Africain, dans la pensée de la terre d'Égypte, dans la terre africaine, eh bien, la chouette voit la nuit. Vous savez, elle voit la nuit, elle doit savoir percevoir dans les ténèbres et elle doit savoir trouver la sagesse dans la nuit, dans le sommeil, dans le repos, hein, afin de pouvoir trouver des solutions. Donc tout cela nous mène au niveau aussi de la pensée de l'intelligence émotionnelle. Donc, nous lisons que cet insecte, lorsqu'il s'attaque à un lion, un peu comme Méricaré lorsqu'il s'attaque au lion du sud, hein. Nous rappelons que les pharaons sont aussi introduits grâce aux hommes léopards, hein, fameux prêtres Sem, les prêtres à peau de léopard. Nous savons qu'il y a par exemple cette magnifique statue de ce pharaon qui a des dreadlocks, si je ne me trompe pas, Menemet III ou l'un d'entre eux, en tout cas, qui a cette magnifique parure d'un lion sur l'épaule, et sur l'épaule, l'autre côté de l'épaule, on peut voir les griffes de léopard, de lion, donc les peaux tachetées, qui sont des groupes et des sociétés secrètes bien implantées en Égypte et encore bien plus tard en Afrique centrale. Par exemple, au niveau du Congo, on avait ce qu'on appelait les Agnotos ou Agnota, qui était un groupe de caste d'hommes léopards, diabolisés par le pouvoir évidemment occidental, mais des thèses de doctorat ont été écrites là-dessus, ou pour montrer au fait que c'était vraiment des groupes de justice, c'était des justiciers qui étaient là pour établir l'équilibre dans la société. Je crois que nous en reparlerons aussi bientôt. Donc, Mary Carey, comme ce moucheron, va donc procéder par intimidation, va donc utiliser des paroles, des stratégies pour pouvoir affaiblir son adversaire. Et Mary Carey, voilà, frappera dans le sein des seins, dans l'abydos, comme nous l'avons dit. Et cet insecte ici a une stratégie similaire avec le lion, en commençant par intimider, c'est-à-dire que il veut provoquer l'impuissance. Il veut que l'impuissance soit apprise, il veut que l'impuissance soit acquise par le lion. Et c'est ce qu'il faut faire lorsqu'on veut attaquer quelqu'un. Il faut l'intimider, il faut d'abord le vaincre psychologiquement, il faut lui faire perdre confiance en soi. Et c'est ce que fait Mary Carey. Il frappe à Abydos pour faire perdre confiance au sud de l'Égypte. C'est ce qui se passe avec les politiques occidentales envers l'Afrique. Il faut d'abord faire perdre à l'Afrique sa confiance en soi. L'Afrique a les matières premières, mais c'est d'autres pays qui fixent ces prix-là. Comment vous expliquez cela? L'Afrique a les ressources pour nourrir sa propre population, mais elle importe d'autres pays alors qu'elle a les moyens d'avoir ses propres plantations, ses propres élevages, mais elle emprunte des autres pays. L'Afrique ou la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ce pays, a des plantations, des hectares et des hectares de cacao, mais il y a des villageois qui n'ont jamais mangé de chocolat. Ce n'est pas normal, tout simplement parce qu'il y a des stratégies, des politiques de pression psychologique, financière et autres pour faire perdre confiance aux populations eux-mêmes et avoir toujours une politique de main tendue. Donc nous sommes toujours dans l'impuissance acquise, nous sommes toujours dans l'impuissance apprise. Et ce petit insecte nous enseigne les méthodes de cette stratégie-là. Il commence par intimider le lion pour lui faire perdre confiance. Il dit, si tu prétends le contraire, non, je reviens, il dit, un cousin ou un moucheron s'approchait d'un lion et lui dit, je n'ai pas peur de toi. Donc c'est le premier, il s'approche, il dit, je n'ai pas peur de toi. C'est directement le mot qu'il vient, je n'ai pas peur de toi. Tu n'es pas plus puissant que moi. On sait que le lion est le roi de la savane. Mais directement ce moucheron vient pour le défier, pour lui enlever sa confiance, pour enlever sa couronne. Il dit, je n'ai pas peur de toi et tu n'es pas plus puissant que moi. Tu prétends le contraire, montre de quoi tu es capable. Est-ce d'égratigner avec tes griffes et de mordre avec tes dents? Une femme même qui se bat avec son mari en fait autant. Donc on vient agresser vocalement la personne, et vous comprendrez tous les discours qu'il y a toujours eu sur l'Afrique, tous les discours que beaucoup de présidents ont eu sur l'Afrique, des discours violents pour dire que l'Afrique n'a pas d'histoire, que l'Afrique, tel pays n'a pas besoin de l'Afrique, que l'Afrique ceci, cela. Vous voyez, c'est la même stratégie que cet insecte-là. C'est la même stratégie que d'autres pays utilisent. On sait que l'Afrique est puissante, est un lion. J'ai parlé tout à l'heure des hommes léopards, la caste des hommes léopards que l'on retrouve aussi bien au Congo, que l'on retrouve aussi bien au Nigeria et ailleurs, et en Égypte ancienne. Donc l'image du lion est extrêmement puissante dans les pensées africaines, l'image du léopard, l'image du félin. On a parlé ici des félins des eaux, on a parlé ici des agnotos, on a parlé ici de la caste des prêtres sem. Donc l'image du lion, du léopard, qui est aussi assimilée à Seth. Parce que lorsqu'on voit Seth, on voit le léopard. Aussi, dans la légende de Seth, vous savez, Seth était un félin qui se cachait dans le désert et son pelage lui permettait de se camoufler dans le sable du désert parce que ça avait la même couleur. Alors, à un moment, Horus passe là dans le ciel, il vole, il ne le voit pas. Mais Anubis, le dieu chacal, qui est en forme de chien ici, va aller se promener dans la boue et va bondir sur Seth pour le marquer à vie de différentes taches. Voilà pourquoi dès ce moment, Seth, le félin, aura des taches, le léopard va naître et enfin Horus peut le détecter car il est maintenant visible dans le désert. Donc c'est là le mythe de la naissance du léopard. Et après, le léopard, l'aigle qui est le pharaon, car le pharaon était Chemsohor, un suivant d'Horus, il s'assit sur le trône d'Horus. Et celui donc qui va vaincre le léopard et qui va porter sa peau et qui a donc il est donc fini, a fini le processus, du moins avancé de l'initiation pour être un roi. Donc, ici, en disant donc que l'Afrique est donc symbolisée par cette image du félin. Mais on voit que ce félin ici est attaqué par un insecte. Et cette histoire est lourde de sens et de science pour nous qui la lisons. Alors, l'histoire continue. Est-ce d'égratigner avec tes griffes et de mordre avec tes dents? Donc, on met en doute les griffes et les dents du lion ici. Comme on met en doute l'histoire africaine par certaines autorités, qu'il dit que l'Afrique n'a pas d'histoire, par la mise en doute des capacités africaines, alors qu'on a toutes les matières premières chez nous. Mais d'autres viennent nous fixer les prix. Alors que c'est nous qui avons les matières premières, mais on vient nous fixer les prix, hein, que ce soit la Chine ou les autres, on vient nous fixer les prix. Alors que c'est nous qui avons les griffes, c'est nous qui avons les dents, mais on a les insectes qui viennent nous dire que nos griffes et nos dents ne servent à rien. Alors, une femme même qui se bat avec son mari en fait autant. Donc on vient humilier pour dire que voilà, tu es comme une femme, toi, Afrique, tu ne sais pas te battre. Et encore ici même, on dévalorise la femme. On dit la femme, voilà, l'homme se bat comme une femme. On veut dire que la femme donc ne sait pas se battre. Ce qui est un non-sens, car dans les sociétés les plus anciennes, on sait que l'image de la guerre est représentée par une femme. Sekhmet, c'est la déesse de la guerre. Athéna, c'est la déesse de la guerre. Ce ne sont pas des hommes. Les hommes, c'est la force brute, c'est la force qui n'est pas intelligente. La femme, au contraire, c'est la force intelligente, c'est la stratégie. Quand on parle de stratégie, c'est même un mot qui est au féminin en français. Eh bien, on voit la femme, hein, Athéna, qui est déesse grecque, mais qui est calquée sur les modèles égyptiens. Sekhmet, qui est la déesse qui vient avant Athéna, qui est la déesse égyptienne de la guerre. Donc vous voyez que la femme, quand on parle guerre, il faut penser à la femme. Les femmes d'Ahomé de Béanzin étaient des guerrières, étaient des femmes guerrières. Donc quand on parle guerre, on voit femme. Mais malheureusement, dans nos sociétés patriarcales maintenant, on prend la femme, on les enlève complètement de la guerre. On n'a pas de vocation de former des femmes pour la guerre. On n'a pas de cellule spéciale des femmes pour la guerre. On ne fait pas la promotion des femmes dans la guerre alors qu'elles ont un appui, une sagesse à apporter dans la guerre. On veut simplement mettre la femme dans les ministères de la femme et de la condition féminine, des affaires sociales. Hein. On a même du mal à donner les finances, ministère des finances aux femmes. On a du mal à donner le ministère de la défense aux femmes. On a du mal à donner le commerce extérieur aux femmes. Alors que nous connaissons le phénomène des Mama Benz en Afrique de l'Ouest. Ces femmes-là commerçantes qui achetaient tous des Mercedes, qui étaient fortes. Donc, on connaît ces femmes qui nourrissent leur famille grâce à leur commerce. On connaît ces femmes qui sont fortes dans l'importation et l'exportation de produits. On connaît ces femmes qui sont fortes dans les affaires. Mais on a du mal à donner aux femmes le commerce extérieur alors qu'elles sont championnes d'aller acheter des marchandises en Chine ou à Dubaï pour venir revendre en Afrique. On a des championnes comme ça qui font beaucoup d'argent, qui sont même des millionnaires. Mais on a du mal à donner encore à la femme le ministère du commerce extérieur. C'est un manque d'intelligence, c'est une ignorance patente. Alors, une femme, même qui se bat, donc c'est encore une ignorance de ce moucheron ici. Donc, moi, je suis beaucoup plus fort que toi. Voilà encore un autre signe d'arrogance du moucheron. Si tu veux, je te provoque même au combat. Donc, voilà comment le moucheron vient encore provoquer au combat le lion. Même stratégie que Méricaré envers les princes thébains. Même stratégie que les pays occidentaux, orientaux envers l'Afrique. Tout ça dans le but, nous rappelons, pour provoquer quoi? L'impuissance apprise, pour provoquer la résignation acquise. Je te provoque même au combat, dit-il donc. Et sonnant de la trompette, le moucheron fondit sur lui, mordant le museau dépourvu de poils autour des narines. Quant au lion, il se déchirait de ses propres griffes jusqu'à ce qu'il renonçait au combat. Et je rappelle ici que ce moucheron, cette espèce de tipule ou de moustique, fait beaucoup de bruit. Vous savez, le bruit que fait les moustiques la nuit, car les battements d'ailes sont tellement rapides et tellement puissants que ce qu'on entend là, le fameux oui, c'est les battements d'ailes, hein, c'est pas le cri du moustique, mais vous savez, c'est les battements d'ailes. Alors, ces ailes sont battues tellement rapidement que ce bruit en frappant l'air, eh bien, crée ce bruit là, cette symphonie déplaisante qui nous empêche souvent de dormir. Eh bien, tout cela peut être illustré dans la vraie vie par la stratégie de ceux qui nous veulent du mal, tout simplement par les médias. Les médias font beaucoup de bruit, les médias font grand bruit, les médias occidentaux, orientaux sont utilisés afin de changer notre perception, afin de nous faire perdre confiance en nous. On nous montre toujours l'Europe, car si nous avons cette crise migratoire, c'est justement parce que nous sommes bombardés des images de l'Occident où c'est le paradis, où tout est extrêmement bien sélectionné, où on ne nous montre jamais la pauvreté de ces lieux, mais on nous montre toujours les succès et l'imaginaire de ces endroits, de sorte que notre perception des autres vient des films, voire même de la science-fiction, de sorte que nous croyons ce qu'ils faisons, de sorte que même de la compréhension même des livres dits sacrés est issue des livres et de la fiction que les autres nous montrent, et voilà pourquoi nous croyons en ces choses, et nous ne pouvons, savons pas retirer la puissance de ces choses. Car le débat serait sans fin de parler de l'impact des fameux 10 livres révélés sur les populations africaines, à savoir, depuis que ces livres sont entrés, sommes-nous mieux nantis, sommes-nous plus puissants qu'avant ou pas? Statistiquement parlant, sans sentiment, sommes-nous plus puissants qu'avant ou pas? Connaissant l'histoire africaine, je ne parle pas de ceux qui sont ignorants de ce qui se passait avant, mais lorsque l'on connaît et on maîtrise l'histoire africaine d'avant après la colonisation, étions-nous plus puissants ou moins puissants après l'introduction de par les colonisateurs qui ont apporté une pédagogie néfaste afin, comme nous l'avons dit, de promouvoir la résignation acquise, l'impuissance acquise. Il faut tout simplement comprendre que la manière dont nous avons reçu les choses, la manière dont les textes ont été présentés, eh bien, c'est une idéologie, une politique d'impuissance transmise. Nous sommes dans l'impuissance. Les gens ont du mal à retirer la puissance de ces textes-là. Les gens ont du mal à voir la grandeur de ces textes-là. En les lisant, oui, on peut devenir un béni, oui, on peut devenir un obéissant, mais peut-on devenir un être puissant? Comme nous l'avons dit, les républicains, l'aile républicaine, l'aile des protestants a fait ce travail de puissance par rapport à ces textes-là. Est-ce que les Africains ont-ils retiré la puissance de ces choses? Lorsque les Africains ont essayé de tropicaliser ces récits à travers, par exemple, les cultes que l'on peut retrouver en Haïti, ou dans le, par exemple, un exemple comme le kimbanguisme, ou de certains catholicismes qu'on retrouve en Haïti, où c'est mélangé au vaudou. Qu'est-ce que l'on retrouve à la fin? Est-ce une idéologie financière puissante qui, j'allais dire, empower, comme en anglais, ces gens, ou qui les rendent puissants, ou c'est simplement un sentiment de béni, oui, où on est là simplement pour le service liturgique, mais il n'y a pas de puissance, de conquête, de projet civilisationnel et de conquête et de technologie et de science derrière ça. C'est là un sérieux problème. On n'est pas ici pour dire que voilà, il faut faire ceci, cela. Nous sommes juste en train de constater ce que nous voyons, à langue à fourcher, c'est pas un hasard, de constater ce que nous voyons. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de sentiment de puissance. Les gens n'arrivent pas à retirer la puissance parce qu'ils connaissent pas le contexte historique. Ils ne connaissent pas l'histoire de ces récits. Par exemple, quand on vous dit « Béni soit l'Égypte, mon peuple », ou les peuples de ce livre reconnaissent eux-mêmes que ce qu'ils avaient, ils avaient comme élément religieux venait d'Égypte. Et je renvoie à Thomas Romer, ce que l'Égypte, la Bible doit à l'Égypte. Je renvoie à Finkenstein, je renvoie à Joseph Davidovitz, de cette phrase qu'a naquit la Bible, et surtout des analyses que nous faisons ici, car ces éléments, lorsque vous les prenez même, ils sont vus dans un certain prisme et paradigme. On ne vous dira jamais par ces auteurs que les anciens Égyptiens étaient noirs africains. Donc on perd encore le contexte, même quand on est connecté ou on prend connaissance de ces auteurs-là. Mais rassurez-vous, ici, nous sommes là pour mettre tout cela en musique et présenter les faits tels qu'ils sont. Donc, la volonté de puissance, elle est retirée. C'est un peu comme si je vous donnais un téléphone portable sans batterie. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous avez, je peux vous offrir un iPhone 11, un iPhone 11 ou le dernier Samsung, mais je vous donne pas la batterie. À quoi ça servirait? Vous voyez? Donc, c'est la même chose avec ces livres. On vous donne le livre comme ça, mais il n'y a pas la batterie à l'intérieur. Vous avez du mal à trouver la volonté de puissance à l'intérieur. Vous avez certes le téléphone. Il est beau à regarder. Ah oui, il est beau, hein. Vous voyez les trois caméras dessus. Vous voyez le bouton dessus. Vous voyez la couleur. Vous voyez marcher avec. Tout le monde voit que vous avez ce iPhone, hein. Oh, ce gars, il a un iPhone. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas la batterie dedans. Exactement comme, je sais pas, j'avais donné cet exemple-là. Quand l'Empire britannique avait voulu faire du commerce avec l'Inde, ils sont venus, ils ont distribué des lampes à huile gratuitement. Oh, voilà, ça c'est un cadeau de l'Empire britannique, prenez. Mais après, ils ont dit, oh, vous savez, oui, ces lampes-là, c'est pour vous éclairer, mais vous savez quoi? Le pétrole, l'essence ou l'huile, on va vous la vendre. Donc, ils ont donné gratuitement les lampes, mais l'huile, ils la vendaient. Alors, c'est la même chose ici. On donne gratuitement aux gens des Bibles, des Corans et tout le reste, mais ou des programmes politiques pour se développer, mais on ne donne pas la clé, on ne donne pas les éléments qui permettent de percer au jour les origines de ces textes et les contextes de ces textes-là. Car vous savez, tout texte pris hors de son contexte est un prétexte, comme celui de l'esclavage, par exemple. Donc, comment est-ce que les Africains peuvent trouver leur volonté de puissance? Eh bien, c'est en connaissant leur histoire, en plaçant dans leur propre paradigme pour voir les choses telles qu'ils sont et telles qu'elles sont. C'est pouvoir retirer la puissance, c'est ça qui manque. Comment retirer la puissance de ce que vous lisez? Comment retirer la puissance de ce que vous voyez? Car, que vous le vouliez ou pas, eh bien, comme je vous l'ai dit, ce qu'on nous remet là, c'est comme un téléphone portable sans batterie. Tout le monde vous voit, ah, je suis chrétien, je suis musulman, je suis celui, je suis cela, je suis capitaliste, je suis étranger, je suis cela, j'ai mon téléphone portable, tout ça, j'ai les trois caméras, regardez, c'est un iPhone, hein. Mais en réalité, vous pouvez faire aucun appel. Vous pouvez appeler personne. Personne ne peut vous appeler. Quand vous êtes en danger, vous pouvez appeler au secours. Le téléphone ne marchera pas. Vous pouvez avoir la foi, mais le téléphone ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de batterie. Il n'y a pas de batterie. Et c'est ça le problème. Et la batterie, c'est quoi? C'est l'histoire africaine, c'est le paradigme africain. Donc, la volonté de puissance, on n'arrive pas à la retirer. On n'arrive pas à tirer la volonté de puissance de ce que l'on voit. On ne tire pas la volonté de puissance du cinéma parce qu'on ne se reconnaît pas dans les films que l'on voit. On voit que des noirs qui sont des dealers, des noirs qui sont des prostituées, des noirs qui sont des moins que rien. Le mot noir même, il est négatif. On ne tire pas la volonté de puissance du vocabulaire. On ne tire pas la volonté de puissance de la langue car on ne connaît pas nos langues. On ne sait pas que dans nos langues, au contraire, le mot noir, il est beaucoup plus positif que dans nos mots, que dans nos langues, les mots ont d'autres connotations, d'autres significations. Que quand on dit fils de l'homme, c'est fils de Muntu. Muntu, c'est l'homme et c'est Dieu en même temps. C'est le seul mot qui peut pouvoir le dire. Mais quand vous lisez votre Bible en français, vous comprenez pas, ça vous échappe. Vous ne retirez pas la puissance de ce passage-là parce que vous n'avez pas le contexte africain, parce qu'on n'a pas le contexte africain. Il n'y a pas de pile dans le téléphone. Et quand il n'y a pas la pile dans le téléphone, c'est l'impuissance apprise, c'est la résignation acquise. Donc, stratégie que le moucheron est en train d'appliquer ici avec brio, stratégie que Mericaré a appliquée avec Muntuhotep, stratégie que l'Occident et l'Orient appliquent aujourd'hui avec l'Afrique. L'impuissance acquise. Retenez ce mot pour aujourd'hui, retenez ce mot pour cette semaine. Parlez-en avec vos proches. Faites-en une conversation, prenez le podcast, faites l'écouter à deux ou trois enfants, ne l'écoutez à deux ou trois personnes, n'écoutez pas seul. Après l'avoir écouté, invitez deux, trois, quatre personnes, écoutez cet épisode ou d'autres et discutez-en. C'est le confinement, les gens sont ensemble. Vous pouvez utiliser ce podcast pour comme ça susciter des conversation, ça serait intéressant plutôt que de rester comme ça à la maison et on se regarde, on n'a rien à faire, eh bien, écoutez le podcast, partagez avec vos amis, on vous encourage à partager et comme ça avoir des discussions sur ce sujet qui serait très 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 intéressant. Alors, nous continuons l'histoire ici du moucheron et du lion. Moi, je suis beaucoup plus fort que toi. Si tu veux, je te provoque même au combat. Et sonnant de la trompe, le coussin ou le moucheron fondit sur lui, mordant le museau dépourvu de poils autour des narines. Quant au lion, il se déchirait de ses propres griffes jusqu'à ce qu'il renonçât au combat. Et voilà encore une stratégie de ce moucheron, de venir comme ça, utiliser les armes du lion contre lui-même. Étant petit, étant insaisissable, ou presque, car c'est comme ça que l'on voit aussi les forces étrangères envers nous, insaisissables, eh bien il retourne nos forces contre nous, c'est-à-dire que, par exemple, comment ça se fait? En corrompant nos frères, nos sœurs, qui sont ignorants, pour nous trahir, ce qu'on appelle la politique du troisième homme, hein, ou de la troisième femme, c'est-à-dire corrompre des gens, utiliser nos propres forces contre nous-mêmes à travers beaucoup d'exemples. Le moucheron ayant vaincu le lion, hein, car le lion s'est vaincu lui-même, parce que l'Africain ne s'aime pas, l'Africain regarde dans le miroir et n'aime pas ce qu'il voit, n'aime pas ce qu'elle voit, se blanchit la peau, s'éclaircit la peau avec des produits nuisibles pour la peau, change de cheveux, prend ceux des indiennes parce qu'elle n'aime pas les siens et les siennes et qu'on est complètement déconnecté de toute la science qu'il y a derrière le cheveu, de tous ces modèles qu'il y a derrière les cheveux, de toute cette, on est dépourvu de cette économie du cheveu, c'est-à-dire des salons qui sont spécialisés dans des coiffures africaines, des produits africains pour les allonger, donc on est dépourvu de ça. Eh bien, le seul refuge, c'est simplement d'aller chez les autres, chez les tissages des autres. Je ne juge aucune personne, aucune de nos sœurs ici, mais nous sommes simplement en train de constater la réalité. Alors, le cousin, ayant vaincu le lion, sonna de la trompe, entonna un chant de victoire et prit son essor. La victoire de l'Occident, de l'Orient sur l'Afrique. Mais il s'empara dans une toile d'araignée et s'en sentant dévoré, il gémissait, lui qui faisait la guerre au plus puissant, de périr par le fait d'un vil animal, une araignée. Ce qui veut dire tout simplement que à la fin, ces systèmes vont se détruire et s'autodétruire d'eux-mêmes, car le capitalisme se mange la queue aujourd'hui. Elle a construit ce qu'elle avait à faire, mais on sait que tous les pays sont européens et occidentaux, les restes sont ruinés. Les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde et on sait que la dette des pays européens aussi augmente de manière fulgurante et fracassante. Donc ces systèmes finiront par s'autodétruire. La crise financière de 2008 en est déjà un exemple. C'était un écho. Et bien maintenant, il y aura une vibration, encore une détonation, je dirais, beaucoup plus importante de ce qui s'est passé dans le passé. Eh bien, le coronavirus va venir renforcer les choses. Nous avons dit que nous entrons dans un monde encore un peu plus complexe. Nous avons traversé la frontière. Nous sommes dans l'ère du Verseau et de la Lionne. Et en ce temps ici, où les portes de cupidité vont être brûlées, vont sauter, eh bien, nous allons assister à un effondrement de beaucoup de systèmes. Et les peuples africains doivent être prêts pour cette étape de la vie. Et afin de renverser la tendance, et par renverser la tendance, nous entrons directement dans la neuvième loi de Robert Greene, car la huitième loi, nous l'avons dit, c'était choisissez vos batailles avec précaution. Il faut tout simplement savoir choisir ses batailles. Lorsque l'on est attaqué comme ça, lorsqu'on est attaqué avec ces stratégies pour nous faire perdre confiance en nous, cette stratégie de l'impuissance acquise, de la résignation acquise, eh bien, il faut choisir ces batailles avec précaution. Il y a des gens avec qui il ne faut pas attaquer directement, frontalement comme ça, c'est-à-dire qu'ils viennent nous intimider comme le moucheron dans la fable que je viens de raconter, de Ésope, ce poète noir antique. Eh bien, lorsqu'ils viennent nous provoquer comme ça, il ne faut pas réagir. Le lion s'est laissé, comment dire, influencé négativement, il a attaqué et il s'est fait battre par son propre jeu, par ses propres mouvements. Lorsqu'on vient nous provoquer comme ça, eh bien, il faut se rendre compte que c'est de la provocation. Et ce que la personne attend, c'est justement, c'est que l'on réagisse. Et lorsque vous êtes provoqué, que vous ne réagissez pas, parce que la personne veut vous faire croire que si vous ne réagissez pas, vous êtes bête, vous n'êtes pas courageux et vous êtes humilié. Eh bien, vous rendez-vous compte que être humilié, eh bien, le résultat est préférable par rapport à celui que cet adversaire recherche, que vous y réagissiez. Parce que ce qu'il veut ou elle veut, c'est que vous réagissiez. Et en réagissant, vous jouez son jeu parce qu'il ne s'attend pas que vous ne réagissiez pas. Et en réagissant, eh bien, vous tombez dans le panneau. Donc, choisissez vos batailles avec précaution. Choisissez quand est-ce qu'il faut agir. La nuit porte conseil. Nous l'avons dit, Kemet, ça s'écrit avec une chouette. Et cette chouette, c'est la nuit qui porte conseil. Laissez la nuit, laissez le temps passer et voyez à travers la nuit, afin de pouvoir résoudre votre problème. Cette loi 8 s'associe aussi à la loi 13, qui veut dire connaissez votre ennemi, sachez qui est votre ennemi, qui est devant vous. Sachez que votre ennemi est comme ce moucheron-là, qui fait beaucoup de bruit, qui veut vous intimider, qui parle beaucoup, mais qui en réalité n'a rien. Qui sait que vous êtes le lion, qui sait que nous sommes de la race des hommes léopards, que l'Afrique est le continent du léopard. Le Congo, par exemple, là, pour emblème, le léopard et les hommes léopards sont dans ce pays-là. Que l'Égypte est cette terre-là des hommes léopards, car les pharaons avaient la tunique des léopards. Les prêtres Sem, Ousso étaient là. Sekhmet, Bastet sont des entités de ces régions-là. Donc, les autres viennent comme des moustiques, comme des moucherons, comme des insectes, faisant beaucoup de bruit pour piquer et inoculer des maladies sans nom. Eh bien, nous devons nous rendre compte que nous devons être des lions. Nous ne devons pas faire l'erreur du lion contre le moucheron, mais bien au contraire, nous devons rester calmes et nous rendre compte que ce système va s'épuiser à la longue, car elle va s'enchevêtrer, ce système va s'enchevêtrer, eh bien, dans une toile d'araignée, dans une toile auquel ces gens ne s'attendent pas. Donc, soyons sereins et ne nous laissons pas ne nous laissons pas distraire. Donc, renverser la tendance, nous voulons entraîner aussi le sujet sur les antipaludéens, la guerre qu'il y a eu récemment, cette semaine, nous allons parler d'actualité rapidement. avec le président de Madagascar qui a fait la promotion d'une invention faite par un chercheur congolais, Jérémy Muyangi, si je ne me trompe pas, qui a en fait créé un produit à partir de l'artémisine qui donne des sueurs froides à l'OMS, à d'autres pays, car on ne voulait pas qu'un pays africain puisse développer ses propres solutions. Il fallait des vaccins, et vous voyez, comme je vous l'ai dit dans l'émission précédente, tous les indicateurs, ou du moins les acteurs des pays étrangers disaient déjà que ce sera l'hécatombe en Afrique, il y aura des corps dans toutes les rues de l'Afrique. Et bien, curieusement, non, on voit des pays africains qui, au contraire, ont beaucoup de solutions. Et ce n'est pas simplement Madagascar, et bien avant lui, il y a le Manacovid qui est déjà sorti au niveau du Congo, il y a l'université Kimbangis aussi qui a trouvé quelque chose, il y a au niveau du Bénin aussi un docteur qui a trouvé quelque chose. Donc il y a beaucoup de molécules, beaucoup de remèdes qui ont déjà été trouvés par l'Afrique, des solutions qui sont apportées, alors que d'autres pays, c'est plutôt la chloroquine qui est mise en avant, avec malgré bien qu'il y ait beaucoup d'effets secondaires, ou alors d'autres carrément qui ne misent que sur le confinement et les masques et l'eau et le savon, alors que l'Afrique est réellement dans les molécules, dans la recherche et dans la contre-attaque. Nous voulons aussi ajouter ici que par rapport à l'émission où nous avons parlé de le coronavirus, une menace solaire, auquel je vous invite à réécouter, eh bien nous avons dit que dans la pensée africaine, lorsqu'on a ce genre de problème, nous savons que les anciens qui étudiaient déjà la nature, qui sont ici depuis des milliers et des milliers d'années, savaient que ces phénomènes-là étaient liés au soleil. Et lorsque l'on va parler de Sekhmet, eh bien, on va simplement essayer de donner une image à cette énergie, à ce phénomène naturel qui se passe où le soleil agit. Le soleil qui est Ra, donc, va agir. Donc, sa fille Sekhmet va agir et causer certaines choses sur la Terre, comme des pandémies, des virus, car le soleil a une peut avoir une influence sur les virus. Nous avons dit qu'il y avait un article sorti par édité ou publié par le magazine Nature où on parlait de cette possibilité là. Et bien les anciens égyptiens, on peut associer leur pensée par rapport à ça à cette image, cette mnémotechnie de mettre une espèce de une lionne, une énergie, parce que divinité ça serait un peu aller loin, une énergie comme ça qu'on va appeler Sekhmet et qui est fille de Ra, donc action de Ra, du soleil par rapport à la terre, et les pandémies se répètent. Et nous l'avons dit, comme dans l'histoire égyptienne, c'est Horus qui peut à la fois combattre Sekhmet lorsqu'elle perd elle perd complètement le contrôle et commence à détruire tout son passage. C'est Horus, ou du moins Mountou, hein, qui va aller à son encontre pour la battre, pour l'arrêter, la stopper. Alors, ce combat-là entre le bien et le mal, ou du moins bien et le mal, c'est un peu trop dire car tout n'est pas manichéen comme ça dans l'Égypte ancienne. Mais ce combat-là entre Horus et Sekhmet va se représenter maintenant sur la terre par la maladie, un virus par exemple qui se répand, et le médicament que l'on lui donne. Donc le virus qui se répand, c'est Sekhmet, et la maladie, le remède, c'est plutôt la plante que l'on va utiliser. Alors nous avons expliqué dans cette émission-là, cet épisode-là, que le Nkulu Nkulu était ce qui était utilisé, parce que quand on prend au russe la translittération au niveau de l'Afrique centrale, c'est Nkulu, et chez les Nkolo, et chez les, par exemple, les Zoulous, ils vont appeler Dieu Nkulu Nkulu, et curieusement, la plante qu'on appelle du Vernonia, qu'on appelle Congo Bololo au niveau du Congo, et celle-là qu'on appelle aussi Nkulu Nkulu. Et cette plante-là est celle qui permet aussi de combattre le coronavirus, par exemple, parce que c'est un antipaludéen et beaucoup de populations africaines ont utilisé ça maintenant, le Congo Bololo, pour essayer de faire des tisanes ou du moins certaines décoctions pour essayer de lutter contre la maladie. Donc on peut se rendre compte, en connaissant l'histoire égyptienne, que quand on a ce problème-là, on interroge dans des plantes, quand on connaît la plante qui porte le nom de celui qui, d'après la mythologie ou la pensée ou la science égyptienne africaine, porte le nom de ce monsieur-là, eh bien, c'est cette plante-là qui nous guide, qui nous dit, ah voilà, c'est la plante qu'il faut pour ce problème-là. Car quand on connaît l'histoire de la mythologie, on sait que, ah voilà, cette plante est utile. Quand il y a ce tel phénomène, par exemple, les virus, c'est lié à Sekhmet, mais dans la mythologie, qui combat Sekhmet, c'est Horus. Oh, Horus, c'est quoi son nom? C'est Nkulu. Oh, quelle plante s'appelle Nkulu Nkulu? Directement, on a la réponse. Vous voyez comment ça marche. Les anciens étaient trop forts. Alors, nous avons parlé aussi dans les arts Mountou. Nous avions dit que arts martiaux venaient de Mars, dieu de la guerre romain, qui vient de Arès, dieu de la guerre grecque, qui vient de Mountou, dieu de la guerre égyptien. Donc c'est les Grecs ont pompé des Égyptiens Les Romains ont pompé, non, les Grecs ont pompé des Égyptiens et les Romains ont pompé, ont triché chez les Romains, chez les Grecs. Et voilà pourquoi on a ce qu'on a, quoi. Donc, arts martiaux vient de Mars, dieu de la guerre romain. Mars vient de Arès, dieu de la guerre grecque, qui vient de Muntu, dieu de la guerre égyptien. On en avait parlé dans l'émission de bien avant, la semaine passée. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que l'Artémisia, hein, la fameuse plante qui est utilisée pour combattre le coronavirus à Madagascar, faite par un Congolais, inventée par un Congolais, eh bien l'Artémisia tire son nom de Artémis. Artémis est la déesse de la chasse chez les Grecs. Mais Artémis a été pompée, volée par à qui ? Chez les Égyptiens encore, car vous savez, les Grecs ont pris tout leur panthéon chez les qui ? Chez les Égyptiens, n'est-ce pas ? Donc Artémisia, la plante Artémisia, a été nommée comme ça à cause de qui ? De Artémis. Artémis, c'est la déesse grecque de la chasse ou de la guerre même aussi. Bien que la guerre, c'est plus Athéna. Mais elle est aussi associée à la chasse, à la guerre, au combat. Donc, elle a aussi un arc et des flèches. Donc, Artémis a été créée sous le modèle égyptien de Bastet. Parce que Bastet, c'est la lionne, c'est la déesse à tête de lionne des anciens Égyptiens, ou à tête de chat. Donc les Grecs, quand ils ont voulu créer Artémis, ils ont vu ce que les Égyptiens faisaient, ils avaient Bastet, et eux ont créé Artémis sous Bastet. Et je répète, Artémisia, la plante qu'on utilise pour lutter contre le coronavirus en Madagascar, qui fait sensation maintenant, Artémisia vient de Artémis, du grec Artémis, la déesse Artémis de la chasse. Artémis qui vient de Bastet, la déesse de la guerre aussi, des anciens Égyptiens. Donc ils ont volé là-bas, ils ont adapté chez eux là-bas. Or Bastet, c'est l'équivalent chez les Égyptiens de Sekhmet. Donc Sekhmet avait deux états, elle était soit Bastet, soit Sekhmet elle-même, n'est-ce pas? Alors on voit qu'ici, le fameux jeu africain dont nous avons parlé dans l'émission précédente, où le même mot veut dire à la fois le remède et le poison, se manifeste encore ici. Nous avons parlé de pharmakie, pharmacon et pharmacie. Hein, le mot pharmacie, ce qui guérit, vient de pharmacon, ce qui apporte la sécurité, et pharmacon vient de pharmakie. Hein. Pharmakie qui est le mot égyptien pour aussi apporter, pour dire ce qui apporte la santé et la sécurité. Donc pharmacon veut à la fois dire le remède et veut dire le poison. Donc pharmacie, c'est un mot égyptien à la base. Donc ici, nous avions dit que lorsqu'on a le problème de virus, on va l'associer à Sekhmet. Quand on a le problème de Sekhmet, on a un virus, on va se dire qu'est-ce qui est donc Horus, parce que c'est Horus qui combat Sekhmet, n'est-ce pas? Donc on va chercher dans la nature quelle est la plante qui porte le nom de Horus, c'est-à-dire Nkulu, par exemple. Alors ici maintenant, on a l'opposé. On a l'Artémisia qui porte le nom du problème, vous voyez? Parce qu'on a le même mot porte le nom du problème et le nom de la solution, vous voyez? Artémisia maintenant qui va combattre Sekhmet, mais porte le nom de Sekhmet, vous voyez? Donc on a quelque chose qui porte soit le nom, même nom que la maladie, soit le nom contraire de la maladie. Donc l'opposé, mythologiquement parlant, quel est l'adversaire qui le combat, mythologiquement parlant? Mais on peut se donner le même nom à la plante. Hein, le nom du problème, on va se donner seul, le nom du problème, on va se donner le même nom à la solution. Comme je l'avais dit une fois, admettons, on a une maladie qui s'appelle table. On va aussi appeler la plante qui va soigner la maladie table. Comme ça, on sait que c'est facile. Si j'ai la malaria, c'est une plante qui s'appelle seulement malaria. Directement, je sais que c'est cette plante que je dois prendre pour me guérir. Au lieu de donner à la plante un nom obscur que je ne comprends pas. Donc, on va toujours donner à la plante soit le nom de la maladie, soit le nom de l'opposé de la maladie, ou mythologiquement de l'adversaire qui combat la maladie qui a le même nom. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Alors, ce qui fait que Artémis, il vient de Artémis, Artémis qui vient de Bastet, Bastet qui est Sekhmet, et qui est donc le même nom que l'on a. Alors, plus intéressant encore, ou très intéressant encore, l'autre nom de l'Artémisia, par exemple chez les Xhosa en Afrique du Sud, c'est Umloniane, j'espère que je prononce bien, Umloniane. Et chez les Zoulous, c'est Umloniane, c'est le même mot. Or, la racine Niamé, hein, Niamé, Nzambe, Niambi sont liées au nom de Dieu. Par exemple, dans la page 27 à 28 du char de Dieu de Dibon Marimbok, on a tous les noms de différentes variations ou translittérations du mot Dieu dans les langues africaines. On a Nzambe, Nzambi, Niamé, Niané, Oniamé. Alors, par exemple, Niamé, c'est celui qui sait et voit tout le monde, hein, chez les Akans du Ghana. Hein, on a Niamé qui donne celui qui sait et voit tout le monde. Or, celui qui voit tout, c'est qui? C'est l'aigle, n'est-ce pas? Celui qui voit tout, celui qui est au-dessus, c'est l'aigle qui a la vision perçante, exactement comme Horus, comme Nkulu. Et on dit que Niamé chez les Akans, c'est celui qui est omniscient, qui est le dieu du ciel chez les Akans. Hein? Le ciel, en lingala, c'est Nkolo qui nous donne évidemment Nkulu. Donc le fait qu'on a le mot Umloniane, Nyame, donc Nyame qui renvoie à Dieu, Nyame qui renvoie à l'aigle, ça nous renvoie à Horus, à Nkulu, à Nkulu Nkulu, à Oro, à Ororo. Alors, le préfixe Oum, hein, parce qu'on a le mot Umloniane, je rappelle, c'est le nom de l'Artemisia en Xhosa et chez les Zoulous. Umloniane, ce mot-là, Oum, U-M, là, il signifie arc-en-ciel ou amont. Hein, quand on regarde à la page 138 du livre Congo de Dibomba Rimbok, eh bien, on voit que le mot Oum, U-M, hein, d'après Mbong Basong, c'est un mot qui renvoie à l'arc-en-ciel, un mot qui renvoie à Amon. Or, le mot Amon, d'après la déclinaison de Mbok dans le char de Dieu, le mot Amon renvoie à Nzambe, renvoie à Nzambi, renvoie à Nyame, renvoie au Nyame. Donc, ce qu'il fait que, pour synthétiser, lorsque je prends le UM et le Onyane, hein, les deux préfixes de ce mot, Umloniane, qui est la transcription la signification de Artemisia en Xhosa et en Zulu, et bien tout simplement lorsque je prends UM et lorsque je prends le préfixe et le suffixe, et bien Umloniane renvoie tout simplement au nom de Dieu, renvoie tout simplement au nom de l'aigle, renvoie tout simplement au nom du Dieu qui est très haut, qui a la vision personne, qui est dans le ciel, Nkolo, Nkulu. Donc lorsque les Xhosa et les Zulu donnent le nom de la plante à Umloniane, donc l'Artemisia, ils donnent le nom qui, dans leur entendement, est le nom de Dieu, qui est dans leur entendement le nom de l'aigle, qui, dans leur entendement, donc, est le nom de Horus, de Ororo, de Nkulu, de Nkulu Nkulu. Donc, lorsque nous parlons de l'émission, l'autre émission du Congo Bololo, eh bien, l'Artemisia renvoie aussi à la même idée, à la même pensée. Le Congo Bololo qui renvoyait à Nkulu Nkulu, hein, parce que le mot est aussi appelé Nkulu Nkulu, donc le Vernonia est appelé Congo Bololo, est appelé Nkulu Nkulu. Nkulu Nkulu qui est le nom de Dieu, Nkulu qui est Horus, donc l'aigle, Nkuru qui veut dire aigle dans les langues africaines. Et bien ici on a la même chose, on a non simplement Artemis qui vient de Artemis, qui vient de Bastet, qui est Sekhmet, donc on donne le nom de la maladie. Donc on croit que Sekhmet est responsable des virus, donc on va donner au nom de la plante qui guérit ce problème-là, le même nom que la maladie, que le problème, donc Artemisia, de Artemis, de Bastet, de Sekhmet. Hein? Et on va aussi donner à cette plante aussi le nom aussi de l'adversaire qui combat cette entité-là, à savoir Horus ou Muntu. Et voilà pourquoi on va donner le nom de Umloniane chez les Xhosa et chez les Zulu. Et on a dit que ce mot-là, d'à partir de ses racines, est le nom qui renvoie au Dieu qui est élevé, à l'aigle, à celui qui est au-dessus, donc Nkolo, Nkulu, donc à Muntu. On revient encore donc à l'idée de Muntu Hotep. Donc, les Africains, lorsqu'ils sont en phase à une guerre, eh bien, c'est dans cette image, c'est dans cette idée de Muntu qu'ils se réfugient. Voilà pourquoi, tout simplement, les oracles, lorsqu'ils voient Muntu Hotep naître, eh bien, lui donnent ce nom de Muntu Hotep parce qu'ils savent que c'est un homme de guerre, c'est un homme de guerre, qu'il sera confronté aux forces du Nord, et eh bien, qu'il a besoin d'un nom initiatique, d'un nom puissant qui va lui permettre de résoudre ce problème-là. Donc, nous voyons que dans la réalité du passé, dans la réalité que nous voyons maintenant du coronavirus, eh bien, il y a des liens. Voilà pourquoi j'avais absolument tenu à vous parler de Muntu Hotep pendant cette période de crise, car cette histoire est extrêmement éloquente. Je ne vous ai même pas raconté les 10% du potentiel de cette histoire, de ce qui s'est passé à cette époque-là. Je vais essayer un peu de résumer le tout, car il y a beaucoup à dire. Voilà pourquoi je tenais vraiment à raconter l'histoire de Muntu Hotep, parce que en ce personnage, dans cette histoire, dans cette tranche d'histoire de l'histoire égyptienne, eh bien, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de sagesse qui nous permettent de comprendre ce qui se passe maintenant dans notre planète. Car c'est pas pour rien, l'actualité que vous voyez, ah, Artemisia, oh, Congo Bololo, oh, Vernonia, tout ceci, ah, les Européens, on nous attaque, ah, voilà ce qu'on a dit, les Chinois. Tout cela peut être expliqué à travers simplement le paradigme de Muntu Hotep. Alors, Muntu Hotep, nous l'avons dit, nous allons bientôt terminer. Lorsqu'il est attaqué, il ne va réagir froidement. Il ne va pas attaquer directement ses ennemis. Erreur que Mary Carré voulait qu'il fasse. Eh bien, il va plutôt renverser la tendance. Hein. Il va renverser la tendance. Comment ? Eh bien, en allant en Nubie. Il va aller en Nubie pour essayer de se constituer une armée. Car c'est sous Muntu Hotep II que l'on peut réellement établir avec, au moins, beaucoup de détails, l'organisation, la formation et la constitution d'une armée forte, organisée et disciplinée, surtout très équipée, stable et voilà quoi, organisée. Donc, Mentotep décide de renverser la tendance. Au lieu d'aller nord pour frapper, un peu comme l'erreur que le lion a fait avec le moucheron, il a été défié et directement il a réagi. Non, Mentotep, au lieu d'aller directement sur le nord pour frapper, non, ce qu'il fait, c'est qu'il va au sud. Il va plutôt au sud profond pour se ressourcer et il va auprès de ses frères, ou plutôt de ses pères et grands-pères. Nubiens, attention, attention, c'est très important de dire que les Nubiens sont les grands-pères des anciens Égyptiens, même pas les pères, mais les grands-pères des anciens Égyptiens, car c'est eux qui ont donné naissance à cette civilisation-là. C'est au-delà de la frontière qu'on retrouve le pays de Punt, ou du moins on pourrait peut-être dire que les Nubiens sont les pères des anciens Égyptiens et les grands-pères, ce sont les peuples du pays de Punt, car les anciens Égyptiens avaient un grand respect pour, par exemple, les Pygmées, toutes les populations qui étaient vraiment au fin fond de l'Afrique. Là, ils avaient un grand respect pour eux parce qu'ils les considéraient comme les grands ancêtres. Alors, lorsque Mentotep descend vers le sud, vers la Nubie, eh bien, c'est là qu'il va rencontrer un personnage très, très intéressant que j'avais dit dans l'émission précédente que nous allons parler de Rambo. Eh bien, il va rencontrer un Rambo, hein, un Rambo africain ici. Même si c'est anachronique parce que Rambo est venu après, on dira peut-être que Rambo est plutôt le personnage dont nous allons parler. Et bien, le personnage dont nous allons parler, c'est Jehemo. Jehemo, qui est un personnage très peu connu, je pense même des égyptophiles. Son nom s'écrit avec T-J-E-H-E-M-A-U. Donc T-J-E-H-E-M-A-U. Vous pouvez prendre note. Donc c'est le Rambo égyptien, hein, c'est le Rambo ancien égyptien. Donc on espère, hein, que lorsque le cinéma africain sera un peu plus équipé, hein, qu'on nous fera une bonne trilogie avec ce personnage-là. Hein. Donc, on ne va plus voir le Rambo là. Hein. Donc, Chihemo et son fils. Donc, c'est une histoire intéressante, une quête, un voyage du héros où Chihemo et son fils, dans la littérature égyptienne, il y a sa biographie qui est racontée. Il raconte avec beaucoup de panache sa rencontre avec Mentotep II qui descend vers la vallée du Nil pour recruter des soldats afin de pouvoir constituer une armée forte et puissante et aller combattre non seulement Mérikaré, mais aussi des tribus asiatiques qui ont été embauchées comme mercenaires et qui ont commencé déjà à s'établir un peu en Égypte. Jehemo va donc avec son fils rejoindre l'armée de Mentotep, non pas comme un vulgaire accessoire, mais comme un homme vraiment de guerre qui vient proposer ses services et qui va mettre ses conditions, car Jehemo raconte son voyage, raconte ses aventures dans ses écrits, et il est très très confiant, il a une très grande confiance en lui. Il n'a pas du tout l'impuissance acquise, bien au contraire, car dans ses récits même, il se vante au devant même des Égyptiens, disant qu'il voit, il n'était non, il n'est pas quand il était au combat, eh bien, il n'était pas du tout impressionné par ce que les Égyptiens faisaient, parce qu'il les trouvait comme des enfants. C'est pas pour rien que Mentotep était descendu, parce qu'il s'était bien rendu compte que la jeune Égyptienne était faiblarde. Il avait besoin de personnes extrêmement fortes. Ce qui nous envoie à la 10e loi, les lois de la guerre, qui est créer une présence menaçante. La raison pour laquelle Mentotep va en Nubie, eh bien, c'est que les Nubiens sont physiquement très très impressionnants. Ils sont grands de taille, ils sont très noirs de peau. Hein, ils sont impressionnants, ils sont des archers comme il n'y en a nulle part ailleurs dans la planète à ce moment-là. Hein, on les appelle, voilà pourquoi on appelle leur terre la Taceti, hein, la terre de l'arc. Ce sont des archers hors pair, chevronnés. Et ils sont aussi forts dans la lutte nubienne que nous avons, dont nous avons parlé un peu brièvement la fois passée, en disant que dans le tombeau de Banquet 3, par exemple, nous avons tous ces fresques qui nous montrent des anciens Égyptiens en plein combat, en pleine lutte, en plein mouvement très acrobatique, des mouvements qui nous rappellent le judo, des mouvements qui nous rappellent peut-être l'aïkido, hein. Donc très tôt dans les arts martiaux ont été développés en Afrique, et c'est C'est de la lutte, oui, mais on y voit aussi des formats, des mouvements très très poussés, très très avancés, comme ceux qui rappellent vraiment les arts muntu, je dirais, pour ne pas dire martiaux, de l'Orient, hein, du Japon et j'en passe. Donc très tôt, on peut imaginer un muntotep qui vient assister à des combats de lutte nubienne, car il veut avoir les meilleurs dans son équipe. Donc il vient, il assiste probablement, il est accueilli par le roi de Nubie, avec qui il fait certainement alliance. Il forme un pacte d'alliance, et certains militaires lui sont donnés. À côté de luttes traditionnelles, de combats, et bien il fait son recrutement. Et parmi ceux-là, Jehemo et son fils rejoignent les rangs de Muntotep, et Jehemo va conduire de main de maître les différents raids, les différentes attaques qu'il y aura au niveau de l'Égypte. Et j'imagine donc qu'il prend certainement la tête d'une importante garnison égyptienne qu'il va se mettre sûrement à former. Je pense que beaucoup de tribus, de fantassins ou du moins de soldats égyptiens sont mis sous l'aile de Nubiens, hein, des Kouchites, parce que le mot Nubien, hein, c'est un mot qui viendra beaucoup plus tard, c'est pas le mot vraiment qui leur est approprié. Eh bien, ces Kouchites-là, ces fils de Kouch-là vont se mettre, on imagine, à former donc les Égyptiens. Et c'est à ce moment-là que une organisation hors pair de l'Égypte va se faire, car dans ces différents tombeaux égyptiens, on peut bien voir qu'il y a des fresques qui montrent des assauts de chars, de forteresses, comme nous l'avons parlé, d'une fameuse tour qui permettait de prendre d'assaut des forteresses égyptiennes. Et ces tours-là avaient des roues en bas, hein, il y avait des roues. Et si vous allez par exemple sur le site academia.edu, il y a un article appelé Proposition de reconstitution d'une tour de siège de la 11e dynastie, JSSEA 39, 2012 à 2013. A proposal for the reconstruction of a siege tower of the 11th dynasty, écrit par Franck Monnier. Donc, vous pourrez voir dans ce texte-là des images et évidemment des plans détaillés, surtout l'écriture, la littérature qui parle de cette tour-là de la 11e dynastie qui avait des roues que Mentotep avait utilisées. Et dans la tombe de celui qu'on appelle Banquet ou Bakhti III, la tombe numéro 15, on peut bien voir aussi les images d'arts muntu, hein, qu'on ne veut plus dire arts martiaux, mais d'arts muntu avec des projections qui rappellent le judo. Donc nous rappelons, c'est la tombe de Bakhti III, donc Bakhti III, tombe numéro 15. C'est là où nous pouvons voir ces images-là très impressionnantes, où l'armée est en pleine formation. Nous imaginons que ce sont sûrement certainement sous l'auspice des Nubiens. Et on sait qu'un auteur qui s'appelle Wolfgang Dekker a écrit beaucoup sur le sport et en Égypte ancienne, sur la lutte, sur les différentes comment on appelle ça, arts muntu qu'il y avait là-bas et comment ça se passait. On peut y voir carrément aussi un article qu'il a par exemple proposé en 1991 à la page 454, publication de l'École française de Rome, le sport dans la décoration murale des tombes privées de l'Égypte pharaonique. Donc ça sont les différentes sources que nous avons utilisées pour pouvoir illustrer ce dont nous parlons aujourd'hui. Donc, Muntotep III, mettant Djéhémo, expert dans les arts muntu, une espèce de Rambo qui va aller à la guerre comme ça avec son fils, qui va former certainement beaucoup de soldats égyptiens et qui va décrire que au combat il était chevronné et qu'il n'était pas impressionné par les Égyptiens et qu'il avait à son compte en tout cas plusieurs victoires. Alors, ce Djéhémo est vraiment un héros, un vaillant chasseur devant Muntu, hein, et c'est lui vraiment qui va aider Muntotep à avoir plusieurs victoires dans ce qu'il faisait. Donc nous avons dit, pour résumer un peu, la lutte contre l'impuissance acquise, eh bien, il faut choisir ses batailles avec précaution. Par exemple, dans la vie d'aujourd'hui, eh ben, ça sert à rien. Par exemple, dans le débat des anciens Égyptiens, vous allez sur un forum, vous allez perdre votre temps à aller dire aux gens, voilà, les anciens Égyptiens étaient noirs, à vous battre, à essayer de convaincre tout le monde, surtout quand vous êtes au courant de ce qui se passe. Ça ne sert à rien, vous perdez votre énergie pour rien, parce que ça peut paraître contradictoire, mais aussi longtemps que les autres pensent que ces Égyptiens n'étaient pas noirs, africains, tant mieux pour nous, comme ça, ils nous sous-estiment, et pendant ce temps, on a le temps de nous reconstruire nous-mêmes et à nous former et aller de l'avant. Comme il est important que l'adversaire nous sous-estime, tant mieux, et ne pas attendre justement que eux écrivent sur nous, que eux nous fassent des films sur nous, mais que nous-mêmes nous puissions les faire. Car si justement eux le savent et sont convaincus, eh bien ils feront des livres sur nous. Black Panther, qu'on aime tous très bien, ou beaucoup, eh bien la part du lion, c'est Disney qui l'a faite. Si vous voyez combien les acteurs ont été payés, eh bien ça vous donnera des larmes aux yeux. Hein? En tout cas pour les plus faibles, nous en tout cas ça nous fait rire parce qu'on sait qu'on s'y attend. Et il faut prendre son histoire à bras le corps, car l'histoire africaine a été utilisée pour écrire le scénario de ce film et pour le produire. Eh bien, à la fin, ceux qui ont fait des millions avec ce film-là, c'est pas les populations africaines, c'est d'autres personnes qui en ont profité de la culture africaine. Donc, choisissez vos batailles avec précaution, renversez la tendance avec ce qui va réellement choquer aussi l'adversaire, comme le président malgache qui a renversé la tendance. Tout le monde s'attendait à une Afrique complètement quémandante en cette période de coronavirus. Eh bien, lui contre-attaque avec une annonce forte et tonitruante qui ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais qui vient de l'Afrique du Sud et Sud-Est, en tout cas, où un docteur congolais apporte cette solution avec cette fameuse boisson faite à base d'artémisine. Artémisine, nous avons dit, qui vient de Artemisia, Artemis, Bastet, Sekhmet. Donc le nom du produit et du poison est aussi le nom du médicament, comme Pharmacon, Pharmaki, hein, et ou aussi le nom de l'adversaire direct, comme Muntu, nous l'avons dit, hein, Congo Bololo, Vernonia, qui va donner un coulon aux Russes, un colo. Et Umloniane, nous l'avons dit, qui est aussi le nom de l'Artemisia, qui est un nom qui renvoie à l'arc-en-ciel, à Amon, à Nkolo, à Dieu, hein, à Niamey, à Nzambe, hein, le Dieu qui est au-dessus, qui voit tout, comme un aigle, comme Kolo, comme Kulu. Donc Umloniane, c'est renvoie à Horus, à l'idée de Dieu, de Muntu qui combat Sekhmet. Donc vous voyez la concordance, si vous avez pu suivre le raisonnement logique. Donc nous le répétons, les arts martiaux viennent de Mars qui vient de Arès qui vient de Muntu. Eh bien, on a aussi Artemisia qui vient de Artemis qui vient de Bastet qui vient de Sekhmet. Et nous aurons aussi l'occasion de parler du cinéma, comment est-ce que, par exemple, la culture populaire, que ce soit la guerre des étoiles, Star Wars, ou les Marvel movies, les films Marvel, les Justice League, toutes ces choses, comment est-ce que c'est inspiré de la culture africaine, comment est-ce que ces archétypes-là sont pris dans la culture africaine, comment ça existait déjà bien avant d'être utilisé dans l'industrie cinématographique d'aujourd'hui. Il y a aussi la loi 11 qui dit troquer l'espace contre le temps. Muntotep a battu en retraite pour penser, pour réfléchir, pour aller vers la Nubie, pour aller vers son berceau culturel. C'est-à-dire qu'en ce moment de crise, il faut aller vers son berceau culturel pour essayer de comprendre dans quoi est-ce que nous pouvons puiser la puissance. Nous l'avons dit ici. Est-ce que les livres que nous lisons nous enseignent la puissance? Est-ce que nous avons l'impuissance acquise par ces livres, ou nous avons la puissance? Comment pouvons-nous en retirer la puissance? C'est ce que nous devons réfléchir. Nous devons savoir quelle est l'histoire africaine. Quand on dit béni soit l'Égypte, mon peuple, on sait que le peuple hébreu reconnaît que la puissance c'était chez les Africains, que c'est eux qui ont tout pris là-bas. Donc nous devons pouvoir retirer la puissance des écritures, retirer la puissance de ce que nous voyons, la puissance des médias, la puissance des plantes, la puissance de l'environnement. Car quand on a dit, quand on connaît la culture africaine, on regarde les plantes, on connaît leur nom, on sait en retirer la puissance. Et bien sinon on voit simplement des plantes, on se dit ah, ça signifie Omloniane, mais quand on ne comprend pas les langues africaines, on passe à côté de beaucoup de choses. Ah, cette plante s'appelle Artemisia, mais on ne sait pas pourquoi que Artemisia vient de Artemis, Bastet, Sekhmet, qui est le nom de ce qui influence aussi la maladie. Quand on ne connaît pas ces choses, quand on ne descend pas dans le sud comme Muntuotep pour trouver son Djehemo, pour trouver ses racines africaines, pour trouver la solution, eh bien on perd les choses. Donc il faut troquer l'espace contre le temps, perdre l'espace mais gagner en temps. 12e loi, perdez la bataille mais gagnez la guerre. Muntuotep est redescendu vers le sud, il n'est pas allé à se battre directement, il a perdu certainement des batailles, mais il a gagné la guerre en décidant d'aller vaincre Méricaré. Et plus tard, dès que son armée sera formée, eh bien il remontera dans le nord et il vaincra Méricaré, et ainsi il introduira la 11e dynastie. Il va rassembler l'Égypte, il va prendre un nouveau nom, hein, et qu'il avait déjà pris bien avant, déjà quand il avait commencé sa reconquête, le nom de Sematawi qui rassemblait l'Égypte. L'Égypte est maintenant reformée. Il s'appelle Sematawi, il prend le nom de Sematawi, il prend le nom de ce qu'il voulait accomplir pour se motiver. Donc, nous voici arrivés donc à la fin de l'histoire de Muntuhotep. J'espère que ça vous a plu. De ce personnage, nous avons pu tirer beaucoup de leçons par rapport au coronavirus, par rapport au temps où nous sommes. J'espère que cette grande épopée de ce personnage vous a plu. Nous n'avons même pas dit les 10% de ce que nous voulions dire. Nous y reviendrons certainement plus tard. C'était Muntuhotep, sa vie, son pouvoir. Merci. Bye bye. Vie, durée et santé.